7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle du télétravail, travailler à la maison ou ailleurs, mais pas dans son entreprise. Le travail à distance est de plus en plus courant, comme en France, avec l'ordonnance Macron de 2017 qui a assoupli ses règles et où, selon le ministère du Travail, 25% de la population active télétravaillerait plus exactement désormais. Aux États-Unis, on parle de home office, bureau à la maison. Et puis, il existe une agence fédérale pour le déploiement du télétravail. Alors, dans un monde où les villes sont saturées avec des temps de transport aussi de plus en plus longs, le télétravail apparaît comme une option séduisante pour les employés, mais qui a aussi ses inconvénients. Comment trouver le juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle quand on travaille à son domicile? Quel est le rythme aussi et la répartition idéale entre les journées dans l'entreprise et celles où l'on travaille à distance? Un auditeur, Adama, à Thiès, au Sénégal, résume bien le sujet puisqu'il nous dit en message « Je travaille à distance et je fais très bien mon boulot, mais le problème c'est que les gens pensent que je ne travaille pas. » Les voisins, les voisines, si vous travaillez à distance, appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le téléphone WhatsApp pour nous laisser des messages écrits également. Cette émission aujourd'hui est réalisée en partenariat avec le site d'information The Conversation France. Bonjour Thibault Liorade.
Bonjour.
Vous êtes chef de la rubrique économie dans ce média en ligne, The Conversation France, un média qui a été fondé en Australie. Dites-nous exactement ce que c'est The Conversation.
Alors The Conversation, c'est un média qui a une grande spécificité, c'est que tous les articles sont signés par des enseignants-chercheurs et des universitaires. Alors on couvre une double actualité, on couvre l'actualité générale comme RFI ou les autres médias, et on couvre également l'actualité de la recherche, c'est-à-dire quand un enseignant-chercheur a travaillé sur un projet de recherche, il souhaite en faire connaître les principales conclusions au grand public, il va venir nous voir en disant « j'ai travaillé sur tel sujet, voici mes conclusions, est-ce qu'on peut réfléchir à une déclinaison en format article de presse ?» en deux pages, à destination d'un public très large.
Voilà, et des articles qui sont très bien faits, très accessibles aussi, et en ligne gratuitement, hein, qui sont en libre accès.
Absolument, alors l'une des grandes spécificités de The Conversation, c'est son business model. Nos homologues australiens ont lancé un non-profit, nous sommes une association à but non lucratif, nous ne vivons que des cotisations de nos membres, à savoir des établissements d'enseignement supérieur auxquels sont affiliés les enseignants-chercheurs qui écrivent sur notre site, et c'est ce qui nous permet de proposer aux lecteurs un site gratuit et sans publicité.
Voilà, ce sont les auteurs des articles qui payent finalement d'une certaine manière pour publier dans The Conversation. Donc, article en libre accès pour tous les voisins et voisines. Emmanuel Léon est notre invité aujourd'hui. Vous êtes professeur de management à l'ESCP Europe et vous avez publié donc cet article qui figure sur le site The Conversation France. Un iPad sur roulette vaut-il un manager en chair et en or? Publié donc à l'occasion de l'émission sur le site The Conversation. Et vous êtes aussi co-auteur de Métamorphose des managers à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Alors, juste quand même pour nos voisins et nos voisines, un iPad sur roulette, vous pouvez dire ce que c'est en quelques mots?
Alors, en quelques mots, l'idée, c'est que quand la personne télétravaille, elle accepte d'être filmée depuis le lieu où elle télétravaille. Elle est filmée, son image est projetée sur un iPad. Et l'iPad, lui, est physiquement au bureau, où il peut se déplacer puisqu'il est positionné sur des roulettes. Donc, c'est une espèce de d'iPad sur roulette.
C'est un porte-manteau, c'est ça, avec une tige et l'iPad en haut, à la hauteur d'un homme.
À la hauteur d'un homme. Alors, la tige est rétractable, donc il peut aussi descendre et se mettre au niveau d'une personne qui serait en salle de réunion.
Et tout ça télécommandé. On va en discuter. Hein. Ça, c'est vraiment le... On est au bout de la technologie, en tout cas pour le moment, la plus affûtée pour le télétravail. Vous allez nous expliquer aussi comment le télétravail, le travail à distance interroge, voire bouleverse aussi notre relation au travail. Il pourrait concerner plus d'un milliard de travailleurs, 1,3 milliard selon certains experts, dans un futur proche. Vous nous direz aussi si ces chiffres sont fiables. Également avec nous, Élodie d'Allongeville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du travail nomade pour la société Génie des lieux qui propose des aménagements de bureaux, alors là, pas en télétravail, hein, réorganisation du travail dans les entreprises, mais évidemment, vous êtes aussi confronté à cette réflexion sur le travaillent à distance.
Tout à fait. En fait, nous occupons de la transformation des entreprises. La transformation passe par l'organisation spatiale. Mais quand on change l'organisation spatiale, on change la manière dont on travaille. Et également avec l'impact du travail à distance, et notamment le télétravail.
Quand on vient travailler au bureau 3 jours par semaine seulement, est-ce qu'on peut réclamer un bureau à soi ?
Alors, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui proposent le télétravail dans le cadre d'un déménagement. Soit le siège s'éloigne un petit peu du centre-ville, soit les locaux sont un petit peu revus dans leur dimensionnement pour être un petit peu réduits. Auquel cas, effectivement, ça peut être un petit peu une contrepartie. Le télétravail est proposé. En échange de quoi, il peut y avoir
on aura un bureau nomade.
Un bureau qui est partagé.
Dans l'entreprise. En fin d'émission, comme chaque lundi ou presque, l'Afrique qui gagne. Portrait aujourd'hui de la militante camerounaise Aïssa Doumara Ngatansou qui se bat depuis plus de 20 ans pour le droit des femmes dans le nord du Cameroun. Mais on revient au télétravail, au travail à distance. Appelez-nous les voisins et les voisines si vous êtes concernés. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Et tout de suite, nous sommes en ligne avec une voisine qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Ninelle.
Bonjour Emmanuel.
Ninelle, vous avez 25 ans et vous venez de signer, je crois, un contrat de salarié en CDI droit français avec une entreprise qui est en France et pour laquelle vous travaillez à distance.
Évidemment.
Oui. Racontez-nous.
J'ai vu une annonce sur Internet. J'ai postulé et on m'a fait passer des tests. Et c'est une plateforme de crowdfunding située en France. Et voilà, je suis chargée de com à Fiatop. Nous développons des projets qui s'implémentent en Afrique. Et c'est beau, je travaille depuis chez moi. Quoique, j'ai un espace j'ai mon bureau d'un espace de coworking.
Ah oui, donc vous ne travaillez pas chez vous. Vous rendez dans un espace de coworking, hein, c'est ça?
Non, je travaille chez moi.
Ah, d'accord.
Mais j'ai un espace. Mais avec le handicap, parce que je suis handicapée, j'ai oublié de le préciser, je suis paraplégique. C'est pas toujours évident. Et puis, je vis dans un quartier un peu enclavé.
Oui.
Donc, on me permet de travailler de chez moi. Et voilà, c'est cool. Voilà, on travaille avec des porteurs de projets de toute l'Afrique. Mon patron, il est en France. Moi, je suis au Cameroun. Et voilà.
Et il faut dire que vous êtes très habituée, Ninelle, hein, de travailler à distance parce que vous êtes sur le secteur du numérique depuis déjà pas mal d'années.
Ah oui, j'ai fait du community management et je suis formée. Je suis diplômée en traduction. Donc, j'ai commencé par le télétravail. Je suis beaucoup, beaucoup plus à l'aise devant un ordinateur.
Mais à tel point que vous vous dites aujourd'hui, je ne pourrais pas travailler, mis à part votre handicap, je ne pourrais pas travailler physiquement présente dans une entreprise tous les jours aujourd'hui. Vous ne pourriez pas vous réadapter?
Je ne suis pas sûre.
Je ne suis pas sûre
parce que je suis habituée à ça. Le management me convient. On se donne des deadlines, on se donne des tâches, des to-do list, voilà.
C'est ça, vous avez un contrôle de l'entreprise quand vous parlez de deadline, de to-do list, c'est-à-dire que vous avez une somme de tâches et d'objectifs à réaliser.
Voilà, j'ai un patron qui suivait ça, il est cool, on fait des points par WhatsApp, il y avait des porteurs de projets qui sont partout en Afrique, on fait des points Skype. C'est tellement pratique, je comprends pas ce qu'il va au bureau en fait.
Brahim Dabéché au Tchad a posté le message suivant. Le travail à distance n'est pas synonyme de repos, c'est assumer sa responsabilité comme une suite logique de son travail au bureau. C'est une bonne évolution de l'entreprise, vous êtes d'accord avec ça Ninelle?
Ah oui, quoi que c'est un peu compliqué parce que encore hier mon père me dit tu as un travail, je lui dis oui. Mais tu sais, je dis oui. Bon, les gens ne prennent pas forcément au sérieux, mais...
Ah oui, c'est ça.
Voilà.
Votre père, il ne comprend pas parce que vous êtes chez vous toute la journée.
Voilà, il ne comprend pas ce que je fais dans ma chambre. Il dit sors.
À la fin du mois, il comprend quand même, hein, quand l'argent arrive.
Oui, il comprend parce que je dépends plus de lui. Il comprend, mais il ne comprend pas. Mais une chose, c'est pas très clair dans son esprit. Et bon, mes frères, ils comprennent parce que chaque fois qu'ils rentrent là, voilà, ils rentrent, ils me disent, il y avait Fiatop, ça va comment? Je leur raconte la belle expérience. Oh, on était là, l'entreprise, eux, ils comprennent. Mais la vieille école, là, les parents, ils ne comprennent pas.
Merci Ninelle, en tout cas, de nous avoir appelé 25 ans, Yaoundé. Et bravo pour ce contrat que vous avez signé. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous les trois, Thibault Liorade, Emmanuel Léon, Élodie Dallongeville, ce témoignage? Thibault Liorade.
Ce témoignage, il est extrêmement pertinent. Il reflète tout à fait les chiffres qu'on peut retrouver dans les études sur le sentiment des salariés qui sont en télétravail vis-à-vis de leur organisation du travail. Ils sont 9 sur 10, peu ou prou, selon une étude qui est sortie en début d'année, à être satisfaits de cette plus grande autonomie qui leur est donnée et également de mieux pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle. Ils se sentent aussi plus productifs, ça ressortait très bien du témoignage de votre auditrice. Et elle a également souligné de manière très pertinente un petit peu les risques et notamment l'un des premiers freins au développement des pratiques de télétravail, c'est justement le manque de confiance que les autres peuvent avoir. Donc là, elle parle de relations familiales, c'est encore plus intéressant, mais en général, dans les entreprises, c'est plutôt la crainte, même pas des managers, mais des collègues simplement, qui vont nous soupçonner d'être moins productifs, voire même de ne pas travailler du tout lorsqu'on est chez soi.
Ouais. Emmanuel Léon, qu'est-ce qu'on entend exactement par télétravail aujourd'hui ? Parce que j'ai cité le chiffre du ministère du Travail, 25% des actifs français qui télétravailleraient. Est-ce que c'est aussi important que cela ?
Alors, les chiffres, c'est un vrai casse-tête. On a autant de chiffres que d'études. Et le problème, c'est qu'on ne mesure pas la même chose. Vous avez des personnes qui, pendant longtemps, ont considéré que le télétravailleur, c'était celui qui, soit, comme votre auditrice, avait signé un contrat en télétravail ou un avenant à son contrat. Mais dans les questions qu'on pose, des fois, on demande à la personne, est-ce que ça vous arrive de travailler en dehors du bureau ? Et là, on va aussi comptabiliser. Et ce n'est pas forcément à la maison, ça peut être à peu près n'importe où. Après, vous avez une autre question qui est la fréquence du télétravail. Donc, il y a des études qui considèrent que vous êtes télétravailleur à partir du moment où vous télétravaillez 8 heures par mois. C'est-à-dire une journée par mois, c'est quand même pas grand-chose.
Non, ça ne change pas grand-chose.
Ça ne change pas grand-chose. Et d'autres qui disent que c'est minimum 2 à 3 jours par semaine pour que ça commence à avoir un véritable impact, que ce soit sur l'immobilier, sur les modes d'organisation des managers. Donc, en fonction de ça, vous avez des études qui ne sont pas si lointaines, qui annoncent 2 à 3 % de télétravailleurs, une étude assez sérieuse auprès de 500 000 personnes dans des grandes entreprises. Et aujourd'hui, on a des chiffres de 25 à 30%. Et du coup, c'est un peu compliqué de s'y retrouver.
Élodie d'Allongeville, ça veut dire que le fait de ne pas être, on le disait en début d'émission, de ne pas être présent dans l'entreprise, ça a un impact aussi, le fait de changer d'environnement physique, on travaille différemment.
Oui, alors il y a vraiment un impact à la fois pour le salarié qui télétravaille, mais il y a également un impact pour ses collègues et pour les managers. Quand on travaille chez soi et qu'on arrive à se mettre dans de bonnes conditions, donc chacun définit ce que c'est que des bonnes conditions, pour certains ça va être une pièce spécifique, pour d'autres ça peut être un coin de table et puis ça suffit à travailler correctement. Ce qui est souvent mis en avant, c'est le fait d'être beaucoup moins dérangé. Comme on n'est pas dans les locaux de l'entreprise, il y a moins de passages devant le poste ou devant le bureau, donc ça n'empêche pas qu'on peut s'arrêter pour boire un café quand on veut, mais il y a moins de sollicitations et d'échanges informels spontanés. Donc ça permet de travailler souvent des tâches de fond.
En France, que dit la loi exactement depuis l'ordonnance Macron de 2017.
Alors, en gros, aujourd'hui, on a levé un petit peu le carcan de le télétravail, c'est tel jour, telle heure, tel moment, parce que ce n'était pas du tout l'attente des salariés. Les salariés, ils voulaient un petit peu plus de flexibilité dans l'organisation de leur semaine. Donc aujourd'hui, on peut avoir une charte, on peut avoir un accord collectif, il n'y a plus d'obligation de signer un avenant au contrat de travail en tant que tel, et on peut même, quand il n'y a pas de charte ni d'accord collectif, écrire à son manager pour lui demander de pouvoir télétravailler tel ou tel jour. Et l'accord du manager suffira pour autoriser le télétravail.
Et si l'entreprise ne veut pas, alors que c'est un métier, alors bien sûr, pour quelqu'un qui est une boulangère ne peut pas travailler à distance, hein, ou un métier de bouche, mais quelqu'un qui peut travailler de chez lui, si l'entreprise refuse ?
Alors, si l'entreprise refuse, ça veut dire que dans sa culture managériale, le présentéisme est extrêmement important. Vous avez des entreprises qui refusent et qui ne sont pas les entreprises qu'on imagine. Les GAFA sont très opposés au télétravail, par exemple. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que le fait d'être physiquement au même endroit va générer de l'innovation. Et donc, ils veulent absolument que tout le monde se retrouve au bureau. Alors, ça n'empêche pas d'avoir de la flexibilité, mais il faut que tout le monde soit là. Donc, je dirais qu'une entreprise qui n'est pas pour, quelque part, elle envoie un message très fort à ses salariés. Si quelqu'un veut faire du télétravail, il ne faut sans doute pas qu'il rentre dans cette entreprise. Il ne changera pas la culture du corps social. Et moi, j'ai vu des entreprises qui mettaient en place le télétravail, mais en disant pas le lundi, pas le vendredi, pas le mercredi. et je voudrais m'assurer qu'il fasse exactement le même nombre d'heures qu'auparavant. Or, comme le disait votre auditrice, le télétravail, ça fonctionne si on est sur du management par objectif. Si on est sur du management où on comptabilise les heures, on va mettre encore plus de pression sur une personne qui, justement, sera chez elle et va se retrouver dans une espèce de course frénétique à la productivité.
Thibault Liorade, est-ce qu'il y a des différences culturelles d'un pays à l'autre? Est-ce que la France est un pays où il y a plus de suspicion, plus de culture du présentéisme, par exemple? En même temps, vous nous citiez les GAFA, ça veut dire que chez Facebook, dans des entreprises extrêmement modernes, très numérisées, on se méfie en même temps du télétravail, ça peut sembler paradoxal.
Alors, comme le disait très justement Emmanuel, c'est très compliqué de s'y retrouver dans les chiffres, y compris dans les comparatifs internationaux, puisque chacun ne mesure pas tout à fait les mêmes choses. Mais effectivement, pour faire écho à ce qui était dit sur les GAFA, il y a eu un mouvement de retour, en quelque sorte, un espèce d'effet boomerang en ce qui concerne le télétravail. Notamment, il y a eu deux symboles ces dernières années qui ont été forts, c'est IBM et Yahoo, et qui sont revenus en arrière sur leur pratique de télétravail, justement parce qu'ils considéraient qu'aujourd'hui, pour se forger un avantage stratégique, tout passait par l'innovation. Et pour créer les conditions où l'innovation a le plus de chances d'émerger, ils ont préféré organiser leurs équipes en petits groupes multidisciplinaires et ils misent sur ces groupes pour faire émerger l'innovation au travers peut-être de synergies de la machine à café, pour parler un petit peu vulgairement.
En clair, ça veut dire, si on veut remettre de la pression sur les salariés, il faut ramener tout le monde au bercail ou pas ?
Il y a clairement cette idée-là, hein, quelque part. C'est-à-dire qu'on a quand même cette suspicion de que font les gens quand ils ne sont pas là. On a tendance à dire que c'est un travers français, mais on a des études américaines qui prouvent que le fait d'être physiquement au bureau est vu comme un synonyme de fiabilité. Et si vous êtes là au-delà des heures de bureau, ça prouve que vous êtes engagé dans votre entreprise. Donc, ce n'est pas qu'un travers français, c'est quand même relativement développé. Après, Thibault soulignait effectivement des aspects d'innovation, c'est-à-dire cette création un peu spontanée parce qu'on se croise, on pense à quelque chose et autres. Mais moi, j'ai travaillé aussi avec un grand groupe américain qui avait un énorme problème de gestion des carrières. Parce que, comme le disait votre auditrice, les gens ne voulaient pas revenir au bureau. Et aux États-Unis, ce n'est pas 2-3 jours semaine quand on télétravaille, c'est souvent 5 jours semaine. Enfin, pas souvent, mais vu les distances, ça peut être assez souvent 5 jours semaine. Et les gens préféraient laisser tomber leur contrat plutôt que de revenir au bureau et d'abandonner le télétravail. Et donc, eux n'arrivaient plus à les faire progresser dans l'entreprise.
Et donc, il y a plein d'enjeux. Et donc, à trouver des managers. C'est quand même, ça questionne. 33 1 84 22 71 71, télétravail à distance, mais travailler pour avoir un emploi, travailler pour faire une carrière à distance, est-ce que c'est possible? On interroge un auditeur qui nous appelle. Bonjour Badou.
Oui, bonjour.
Badou, vous êtes salarié, vous avez 50 ans, vous habitez Montpellier.
Oui.
Et vous télétravaillez?
Oui, tout à fait.
Alors, vous êtes donc salarié d'une entreprise en contrat à durée indéterminée?
Oui, donc je suis salarié en CDI.
Oui.
Et donc, du coup, voilà, je travaille en fait en région parisienne.
Qu'est-ce que vous faites comme métier?
Alors, je travaille en recherche et développement, en fait, dans le secteur des télécommunications.
Vous êtes informaticien?
Informaticien, expert en réseau télécom.
D'accord. Et comment ça se passe, alors, le travail à distance?
Alors, le travail à distance, bon, ça fait à peu près 10 ans que j'en fais. Et au sein de l'entreprise, il y a quand même une liberté, ça dépend en fait des managers et de l'organisation des équipes. Ça peut se faire n'importe quel jour de la semaine. Et on a droit, en fait, à 2 jours de télétravail par semaine.
Par semaine. Et vous les placez où vous voulez. Et quand vous êtes en télétravail, vous avez des outils qui montrent à votre chef que vous êtes bien connecté, que vous êtes bien au boulot?
Oui, bon, c'est les outils classiques qu'on a aujourd'hui, en fait, pour communiquer. Donc, c'est les outils, voilà, qui permettent de s'envoyer des messages instantanés, de pouvoir se connecter.
Je vous lis le message de Karim, posté de Lomé au Togo. Voici, il dit « Travailler de chez soi sans relations sociales ni professionnelles, ça doit être ennuyeux. » Est-ce que vous vous ennuyez pendant les 2 jours de télétravail?
Alors, non, pas du tout, parce qu'en fait, quand je suis en télétravail, déjà, je prends le temps de me lever, donc je dors bien. Donc souvent, il n'y a pas de transport en commun. Donc du coup, moins de stress.
Donc du coup, avec le temps gagné des transports en commun, vous faites un petit footing, c'est ça, à l'heure du déjeuner?
Oui, souvent. Alors, désolé, comme je suis sportif.
Oui.
Et donc, du coup, en termes de concentration, quand on a vraiment des choses à faire, donc on n'est pas dérangé, en fait. Comparé, en fait, quand on est sur site, où régulièrement, on est interpellé par nos collègues, etc. Donc là, vraiment, on est tout seul et on est concentré dans ce qu'on fait. Et je reconnais quand même, aujourd'hui, ben, quand je télétravaille, j'ai le sentiment d'être beaucoup plus performant, parce que beaucoup plus concentré que quand je suis sur site.
Et demain, on vous propose un poste mieux payé, où vous êtes clairement un poste de management, mais il faut être présent 5 jours sur 7, tous les jours de la semaine. Vous acceptez ou pas de laisser tomber ce confort du télétravail?
Je me poserai vraiment la question, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie vraiment de ma façon de faire, de vivre. Par exemple, aujourd'hui, mais avant, j'habitais en région parisienne, je mettais à peu près 2h30 pour aller travailler, matin et soir. Donc 2h30 le matin et 2h30 le soir.
Ah oui, donc, effectivement, c'est 5 heures de trajet par jour.
Tout à fait. Aujourd'hui, j'habite en province. Alors, si je regarde mon temps de transport dans la semaine, j'en fais moins que quand j'habitais en région parisienne.
Et donc, vous êtes plus productif. Merci beaucoup, Badou, de nous avoir appelé. Très, très bonne journée. Je vous laisse retourner à votre télétravail si vous êtes en télétravail aujourd'hui. On ne dira pas que vous avez participé à l'émission en direct chez 7 milliards de voisins. Les outils technologiques aujourd'hui, Badou disait qu'il travaillait finalement avec des outils assez classiques de messagerie instantanée. Emmanuel Léon, est-ce qu'il y a aujourd'hui des... Alors, on parlait de l'iPad sur roulette. Est-ce que des technologies très sophistiquées se développent pour répondre aux besoins, bon, on ne va pas se mentir, aux besoins aussi un peu de flicage du télétravail.
Alors, les outils ne sont pas... Moi, je n'ai pas vu une grosse évolution des outils au cours des dernières années. On est quand même globalement sur le courrier électronique qui est devenu une plaie absolue dans les organisations parce qu'on ne le gère pas bien. On a les réseaux sociaux, on a la messagerie instantanée, on a les visioconférences, la téléconférence... Globalement, on reste sur des outils assez classiques. Les outils les plus performants, c'est une salle de téléprésence. Mais une salle de téléprésence, il faut que l'entreprise puisse se la permettre. Il faut que le salarié ait également des outils de connexion qui sont loin des possibilités en général.
Le robot que vous décriviez tout à l'heure en début d'émission, donc un iPad sur une tige avec des roulettes, donc un robot qui donne vraiment une sensation de présence humaine. Hein. Moi, je l'ai expérimenté. C'est vrai que c'est assez incroyable. Ça coûte combien un robot comme ça ?
C'est pas très très cher, hein, puisqu'on est autour de 2-3 000 euros. Après, il faut rajouter l'iPad, bien sûr, mais on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement élevé. Simplement, c'est toute une organisation du travail aussi à revoir, parce qu'il y a évidemment un premier côté un peu gadget, hein, on voit ça arriver. Et puis, au fur et à mesure, on s'y habitue, mais il y a des contraintes. L'outil n'est pas si simple que ça d'utilisation par moment. Il ne peut pas ouvrir de porte, il ne peut pas monter un étage. Donc, il faut être très au clair. Les terrains qu'on a faits sont avec des gens qui étaient très au clair sur la manière dont ils allaient l'utiliser, jusqu'où ils pouvaient aller, et puis aussi les limites, bien sûr, que ce type d'outil peut avoir.
Notamment sur l'aspect très intrusif. Hein, si le robot est là et le salarié en question est chez lui, jusqu'où va l'intrusion aussi ?
Alors, dans les cas qu'on a pu observer, c'était une démarche volontaire. Il est bien évident qu'en France, aujourd'hui, il serait impossible d'imposer un robot de téléprésence à un télétravailleur. Donc là, on avait plutôt des managers qui souhaitaient être en contact permanent avec leurs équipes et qui, de ce fait, acceptaient d'être filmés en permanence. L'idée, c'est qu'ils ne voulaient pas que les gens soient amenés à les contacter par tous les outils dont on vient de parler. Ils voulaient vraiment que la personne puisse se tourner vers eux et leur poser une question comme s'ils étaient en face à face. Alors, ça fonctionne bien sur des sujets techniques, c'est un petit peu plus compliqué sur des éléments personnels.
Manager et télétravailleur, c'est donc possible avec la technologie. Allez, vous nous appelez, on parle du télétravail aujourd'hui en partenariat avec le site d'information The Conversation. Je vais y arriver. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
On accueille un voisin qui nous appelle de Dakar, Mamadou, bonjour.
Oui, allô, bonjour Emmanuel.
Vous êtes bien en direct avec nous, c'est presque du télétravail, en tout cas par la magie du téléphone. Vous êtes consultant, vous, dans la fintech, hein, dans la technologie financière. Vous avez deux employeurs, hein, c'est bien cela, et vous travaillez uniquement à distance, hein.
Oui, tout à fait. Depuis décembre, j'ai signé deux contrats de consultance.
Oui.
Avec deux entreprises. La première se trouve en Angleterre et l'autre en Chine.
Oui.
Donc ici, je fais du business development pour eux. Je fais la prospection et je négocie des marchés pour eux.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas là, pour le coup, réellement salarié?
Non, je suis payé en fonction des tâches. On m'assigne des tâches avec des deadlines. Mais j'ai un taux horaire. Je suis rémunéré par heure.
Ah, d'accord. Et comment votre employeur a une idée du nombre d'heures que vous avez effectuées?
Le nombre d'heures par jour est de 8 heures. Donc, je suis payé en fonction de ça. Le mois, ça fait 160 heures.
Mm-hmm.
Et j'ai des bonus également en fonction des résultats, c'est-à-dire des rapports que je les envoie et les factures, c'est-à-dire tout ce qui est Internet, appels et transport.
C'est ça. Et technologiquement, comment ça se passe? Comment votre employeur en Chine sait que vous êtes connecté?
Bon, nous avons des outils de travail comme Slack. Il y a le mail professionnel également. On travaille aussi sur WhatsApp.
Et quel est votre bilan? Alors, si pareil, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un peu de temps libre ou vous sentez cette pression de la connexion en permanence sur vous, Mamadou?
Ben, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le travail, parce que c'est un vrai challenge. Je pense que je suis beaucoup plus productif que d'avoir un travail... comment on appelle ça, classique, où on te demande de venir à 8 heures, de rentrer à 18 heures. Et là, c'est beaucoup plus flexible pour moi. Je travaille à la maison, je pense que mes résultats sont bons.
Bon, on ne va pas vous déranger plus longtemps, hein, en télétravail. Merci Mamadou, je vous laisse retourner donc à votre connexion avec vos employeurs en Chine et en Angleterre. Merci de nous avoir appelés. Vous pouvez bien sûr continuer de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Emmanuel Léon, Élodie Dallongeville et Thibault Liorade, est-ce qu'aujourd'hui ce télétravail, il apparaît comme incontournable pour les jeunes générations, Élodie Dallongeville?
De plus en plus, pas forcément que pour les jeunes générations. On a un peu l'impression que ce sont les jeunes qui poussent parce qu'ils sont mobiles, nomades, nés avec un téléphone dans la main. C'est pas forcément le cas. Concrètement, quand on met en place le télétravail dans les entreprises, ce ne sont pas forcément les populations les plus jeunes qui télétravaillent dès le départ. Parce qu'en fait, c'est une population qui doit acquérir des pratiques de travail, apprendre à travailler en groupe. Et finalement, c'est quand on regarde un peu le télétravailleur moyen, on est plutôt sur des profils un petit peu plus seniors, de collaborateurs qui sont déjà un petit peu assis dans leur métier et qui peuvent vraiment travailler en autonomie. On l'a dit, on l'a vu, c'est un des postulats, hein, de travailler complètement en autonomie avec la confiance du manager. Et sur des populations plus seniors, ça marche bien.
Ça marche bien, sous-entendu que les jeunes en télétravail, c'est plus compliqué parce qu'ils ne font pas que télétravailler.
C'est pas le sens de mes propos. C'est pas le sens. C'est qu'ils doivent apprendre à travailler et que finalement, ils apprennent leur métier. Mais même s'ils savent, ils peuvent télétravailler. C'est pas qu'ils y travaillent moins. Hein.
J'ai entendu récemment, ce week-end même, par une trentenaire de mon entourage qui télétravaille comme commerciale 3 jours par semaine pour une start-up. Voilà ce qu'elle me disait. Hier, j'ai fait mon meilleur chiffre de la semaine et j'ai déjeuné avec une copine pendant 2 heures en terrasse. Je sais pas ce qu'il faut en déduire. Ou encore entendu chez une autre trentenaire, je programme tous mes mails la veille pour les envoyer quand je suis en télétravail, comme ça, je range mon appartement tout en étant connecté sur mon ordinateur. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il faut en déduire. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Léon?
Alors, plusieurs choses. La première, c'est que je vous rejoins complètement sur le fait que le télétravail n'est pas adapté à quelqu'un qui vient d'arriver dans l'organisation. Donc, je ne dirais pas seulement l'aspect jeune au sens âge, mais tout simplement le fait d'intégrer une nouvelle organisation. C'est aussi intégrer une certaine culture d'entreprise, les modes de communication, la manière dont on fonctionne, etc. Honnêtement, le télétravail ne devrait pas être proposé avant 6 mois, 1 an dans une organisation parce qu'on perd beaucoup de choses et la personne qui s'intègre dans l'entreprise perd beaucoup de choses. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, là, vous mettez en évidence le fait qu'effectivement, le télétravail peut permettre une organisation de travail complètement différente. Et c'est bien ce qui fait peur très souvent. Pour autant, si on est vraiment sur du management par objectif, si cette personne a atteint très rapidement ses objectifs, c'est à son manager de s'en rendre compte et de lui en fixer de nouveau. Mais si en contrepartie, elle a 2 heures pour elle pour déjeuner en terrasse, eh bien tant mieux, ça fait un peu partie de l'idée. Ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que Il y a cette espèce de peur de « mais mon Dieu, que font-ils quand ils ne sont pas au bureau ?» Mais je dirais que cette peur, elle est dans l'autre sens. Mon Dieu, que font-ils quand ils sont au bureau ? Ouais. On n'a pas non plus de vision.
On a beaucoup de gens qui sont sur leur smartphone au bureau.
Hein. Exactement. Et on est encore dans cette logique de l'ère industrielle, hein, de l'usine. Alors l'usine, c'est vrai, Charlie Chaplin, on voyait quand il était à la chaîne et quand il n'y était pas. Dans un monde où tout le monde est sur ordinateur, c'est quand même beaucoup plus compliqué de savoir ce que font vos collaborateurs. Donc la question de la confiance, de la distance et de la proximité, elles doivent être traitées tout ensemble.
Thibault Liorat, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la question de la productivité, elle est au centre, hein, pour les entreprises ?
Bien sûr, mais effectivement, comme le disait Emmanuel, il y a une question d'organisation. Comment est-ce que le salarié arrive à s'organiser lui-même ? Comment est-ce qu'il arrive à rester maître de son travail ? Comment est-ce qu'il arrive à rester maître de ses objectifs tout en gardant cette autonomie
Et comment des managers gèrent des salariés à distance aussi ? C'est complètement autre chose, c'est un autre métier de manager. Il faut aller se former en tant que manager à distance, de salarié à distance plus exactement.
En fait, dans ce genre de relation managériale, tout va reposer sur la confiance. Donc, effectivement, là encore, comme le disait Emmanuel, quelqu'un qui arriverait dans une entreprise et tout de suite serait mis en situation de télétravail peut ressentir une forme d'isolement. Il peut aussi avoir besoin de tutorat, dans les premiers mois notamment. Donc, il ne s'agit pas de dire que le télétravail est la panacée, mais il y a des équilibres, il y a des conditions à respecter. D'ailleurs, dans l'article que vous avez publié ce matin sur The Conversation, vous expliquiez bien que ce robot de téléprésence, il incarnait un manager qui était là depuis longtemps, qui était très important dans l'organisation et dont l'organisation ne voulait pas se séparer finalement. Ils ont trouvé ce moyen pour justement permettre de garder une marche normale dans l'entreprise.
Depuis le début, on fait comme si, finalement, depuis le début de cette émission, tous les métiers se prêtaient bien au télétravail. Alors, j'enlève les métiers de service, restauration, etc. Mais vous, par exemple, Thibault Liorat, vous travaillez à The Conversation en tant que journaliste, en grande partie en télétravail ?
En grande partie, non. C'est vrai que nous, on a deux conditions à The Conversation. C'est bien entendu, il faut publier les articles sur la base régulière. Il faut être là pour les deux conférences de rédaction hebdomadaires qui sont le lundi matin et le mercredi après-midi.
Donc ça laisse quand même 3 jours possibles de télétravail. C'est
voilà,
beaucoup.
Exactement. Après, chacun s'organise comme il veut, mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on est quand même des jours où il n'y a pas ces conférences de rédaction. On est quand même nombreux à être à la rédaction parce qu'on est bien conscient qu'une grande partie de notre travail repose sur l'échange qu'on a entre nous.
Mais on sait exactement ce que vous produisez, vous, en tant que Thibault Liorat. Le nombre d'articles relus, réécrits, etc.
Effectivement,
par exemple.
Mais tout le monde peut le contrôler puisque le site est en accès libre, donc évidemment.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas évident pour tous les métiers
évidemment.
Ce contrôle de la productivité, il est très compliqué pour certains métiers, non, Emmanuel Léon ?
Alors c'est intéressant parce qu'il y a un moment, une étude était sortie qui disait qu'à peu près 40 à 50% des activités pourraient être effectuées à distance. Et ça a été repris. Comme quoi, 40 à 50% des emplois pourraient complètement être en télétravail. C'est pas tout à fait la même chose. Donc effectivement, il y a un nombre d'activités qu'on peut réaliser à distance et d'autres qui nécessitent un collectif parce que la distance va compliquer la prise de décision, va compliquer le brainstorming, va compliquer un certain nombre de choses. Pour autant, aujourd'hui, il y a quand même peu d'activités dans lesquelles une petite flexibilité n'est pas envisageable. C'est relativement rare. En dehors, évidemment, de métiers manuels où là, effectivement, ça devient très complexe. La question, à mon avis, elle est plus sur... vous parliez du management à distance. Pendant longtemps en France, la discipline salariale, c'est d'abord du temps que les gens passent dans un lieu. Notre contrat de travail, qui est souvent une page, précise où on va travailler et combien de temps. C'est évident que passer au management à distance et au management par objectif, ça demande un changement des représentations de ce qu'est le travail. Et c'est là où on a un souci.
Est-ce que d'ailleurs, ça nécessite de revoir le contrat de travail avec des assurances en cas d'accident, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je parle de la France, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres pays européens où il y a la notion de droit du travail et d'accident du travail, non ?
Alors ça, c'est très, effectivement, c'est une vision très française, et notamment avant les ordonnances de 2017, c'était le grand sujet, qu'est-ce qui se passe en cas d'accident ? Donc ça a été traité par les ordonnances Macron de 2017. Aujourd'hui, en cas d'accident, il y a une présomption d'accident de travail, ce qui n'était pas le cas avant. Une fois qu'on a dit ça, les entreprises vont encore devoir affiner au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe si je suis en télétravail toute la journée, mais je vais acheter une baguette de pain à midi pour mon déjeuner. Est-ce que c'est encore un accident du travail ou pas. Voilà, je pense qu'au niveau des jurisprudences, il y a encore un petit travail qui va se faire dans les années à venir.
C'est la même chose quand on est présent dans l'entreprise.
Exactement.
Ce qui est assez fascinant, c'est que globalement, il n'y a quasiment pas de cas d'accident du travail en télétravail. Donc on est vraiment dans de l'imaginaire collectif, de la représentation de mon Dieu, qu'est-ce qui arrive ?
Ce que vous voulez dire, c'est que la plupart des accidents du travail aujourd'hui en France, ce sont des accidents de transport, notamment d'accidents de la route.
Hein, majoritairement.
Majoritairement.
Et donc là, par définition, oui.
On était sur le trajet.
C'est quelque chose du coup qui peut peser en faveur du télétravail pour les entreprises, ça, parce qu'on sait que les accidents du travail, c'est un vrai problème pour les entreprises aujourd'hui.
Je ne sais pas s'il faut le penser en mode accident de travail ou se poser la question de toutes ces pathologies dont on entend parler, burn-out, bore-out, brown-out, etc. et se dire est-ce que le télétravail ne serait pas une manière de répondre à ces problèmes-là. Moi, je l'entends plus comme un mode de plus de flexibilité pour le salarié, plus d'autonomie, plus de confiance. Ça, c'est la vision extrêmement positive du télétravail.
Et le rythme idéal ? Vous l'avez déjà dessiné plus ou moins, c'est quoi ? 2 jours de télétravail par semaine ? 3 jours ? 1 jour ?
Je pense que ça dépend des organisations et des métiers. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une recette qui soit toute faite et qui soit duplicable pour toutes les organisations. En fonction des métiers, on le voit, quand il y a des publications et de l'édition, il faut se voir un certain nombre de fois dans la semaine et ça ne sera pas la même chose dans d'autres types d'organisations. Et c'est des questions de dosage et peut-être aussi de progressivité, de se dire on essaye une journée par semaine et on regarde comment ça se passe, y compris même à l'intérieur d'une entreprise.
Mais pour ne pas se sentir coupé de l'entreprise et que l'entreprise ne se sente pas coupée du salarié, c'est quoi le rythme idéal, Emmanuel Léon ?
Dans les grandes organisations, où en général, on considère qu'en deçà de, enfin, si on est autour de 1 à 2 jours par semaine, c'est gérable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'organiser, hein, mais c'est gérable et il n'y a pas de sentiment d'isolement particulier. Il y a plutôt le sentiment de pouvoir effectivement se dédier à ses tâches. Pour autant, les gens que vous avez eus là en ligne sont à temps plein.
Tout le monde est voisin.
Il y a quelque chose comme l'idée de créer des passerelles entre les différentes cultures, non ?
Bonjour Emmanuel, bonjour les auditeurs.
On se sent tout petit finalement.
Très proche en même temps. Hein.
Bonjour Emmanuel.
La planète est un immense village, alors c'est bien de savoir aussi qu'il y a des gens qui sont proches de nous.
Bonjour à vous, bonjour à tous les 7 milliards de mes voisins qui se trouvent sur la planète Terre.
C'est 7 milliards de destins, 7 milliards d'histoires d'amour.
Ça m'aide moi aussi, comme beaucoup d'autres, à pénétrer le monde.
C'est 7 milliards de déceptions, c'est 7 milliards de joies, de pleurs, c'est
l'aventure.
Oui, bonjour.
C'est une extension de la famille dans un sens où on les a au quotidien à côté de soi et c'est bien de les connaître, d'échanger avec eux.
C'est la planète, non ? On est 7 milliards sur Terre, c'est ça ? Je dis pas de bêtises ?
Oui. 7 milliards.
On arrive bientôt au terme de cette discussion. On accueille une dernière auditrice qui vient de nous appeler de Londres. Bonjour Chantal.
Allô, bonjour.
Chantal, vous êtes en direct. Vous n'avez pas l'air de faire un bilan très positif du télétravail ?
Non, je dirais pas que c'est pas positif. Mais je préfère quand même venir au bureau pour travailler, pour avoir un contact social avec mes collègues, plutôt que rester à la maison et toute seule.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie sans indiscrétion, Chantal ?
Je fais de la formation. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler avec ma compagnie, mon contrat stipulait que je devais venir dans les bureaux. Avec le temps, j'ai changé de position et je fais de la formation avec d'autres pays. Donc mon contrat a changé et il est stipulé que je dois faire du télétravail.
Oui, mais on vous chasse pas quand vous venez dans les bureaux quand même.
Ah non, pas du tout. pas du tout.
Et vous vous sentez mieux en fait hein, quand vous venez dans les bureaux de l'entreprise?
Oui, complètement. Et j'ai d'autres équipes en fait sur Paris ou en Espagne ou dans d'autres pays. Donc du coup, on a pas mal de bureaux. Et si je vois que j'ai besoin de passer temps un peu à Paris, je dis à mon boss que je vais travailler dans les bureaux de Paris ou chez ma mère, il n'y a absolument aucun problème.
D'accord. Eh ben merci Chantal pour cette contribution largement nuancée sur le télétravail. C'est vrai qu'on a vu des témoignages plutôt assez enthousiastes. Une dernière question à tous les trois, Thibault Lioraz, Emmanuel Léon et Élodie Dallongeville. On annonce la mort programmée de l'open space, donc de ces grands bureaux où on est tous agglutinés dans une même pièce. Bon, c'était l'innovation américaine des des années 80
et 70.
Même 70, oui. Mais alors, si demain tout le monde est en télétravail, alors après la mort de l'open space, il y aura la mort du télétravail?
Alors, c'est pas la mort du bureau. Hein. La mort de l'open space, c'est pas encore la mort du bureau. C'est la mort des espaces entièrement ouverts et peut-être avec des usages assez uniques et standardisés de bureaux qui sont dupliqués sur des plateaux entiers à perte de vue. Mais aujourd'hui, on retrouve dans les aménagements des espaces qui sont un peu plus dédiés aux usages. Donc il y a des espaces pour travailler un peu seul, des espaces pour travailler en équipe. Et finalement, le télétravail, c'est un autre usage. Et le fait de travailler de chez soi pour se consacrer à des tâches de travail souvent solides, des tâches de fond.
Bon, Thibault Liorade.
Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec justement ce que je disais, le retour de boomerang concernant le télétravail, on peut imaginer que effectivement la mort du bureau est pas pour demain.
En tout cas, c'est l'article d'Emmanuel Léon est à retrouver sur le site The Conversation. Un iPad sur roulette vaut-il un manager en chair et en os? Merci à tous les trois d'être venus. Dans quelques instants, 7 milliards de voisins, portrait d'une militante camerounaise des droits des femmes, Aïssa Doumara Ngatansou. Ça sera juste après Sly Johnson.
Les yeux rivés vers les étoiles, cacher une lueur d'espoir. Le ciel en émoi, terre de braise. Les missiles dansent la balle, se sent malaise. Oh! Communication en morse, signaux perdus, on débat, on se tape en le torse. Sous nos pieds, l'amour se dérobe. Arrache-cœur, nouveau type de job. Help me God, ça le temps pour une colle à se dérode. Les îles sous l'eau, la glace s'érode. La belle bleue est dans les cordes. Oh soldat, au sein du combat, garde ton éclat. Everything's gonna be alright, never ever give up the fight. It's a new day, let the music play, it's okay. Yeah. Get down if you wanna get down. It's a new way, everything will be okay. Get down if you wanna get down. Yeah. Aucune idée de ce qui se passe dans nos têtes. La peur, la bêtise font la fête. Dès la naissance, collée sur le front, une étiquette. Média adepte dans l'art de la savonnette. Nos poches se vident, on veut du cash. Les pavés de la ville se détachent. On fume les poumons de la planète à coups de hache. Tuer tous les apaches dans l'espace, on fait tâche. Faut que ça passe cool. Y'aura pas de paradis si on efface tout. Soyons têtus, exclus, déçus, rien n'est perdu. Soyons plus forts que nos excuses. Oh soldat, au sein du combat, garde ton éclat. Yeah. Everything's gonna be alright, never ever give up the fight. It's a new day, let the music play, it's okay.
Sly Johnson, New Day, dans quelques secondes, l'Afrique qui gagne comme chaque lundi chez 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Aïssa Doumara Ngatansou, à 57 ans, c'est une militante camerounaise pour le droit des femmes dans la région de Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. Elle a cofondé l'association de lutte contre les violences faites aux femmes pour mener des actions contre les mariages forcés, contre les viols et toute forme de violences faites aux femmes. Et elle a reçu, il y a quelque temps, le premier prix Simone Veil à Paris, remis par le président Macron pour l'ensemble de ses actions. Elle revient sur son parcours au micro de Raphaël Constant.
Je me définis comme une féministe engagée pour la cause des filles et des femmes. J'ai été une petite fille qui a été élevée comme celle de toute ma communauté. C'est-à-dire que j'ai été mise à l'école avec mes frères et sœurs. Mais dès que j'ai eu l'âge qui est considéré comme normal d'être mariée, entre 15 et 16 ans, j'ai été mariée.
Vous avez perdu votre maman très tôt?
J'avais exactement 11 ans.
Et à partir de ce moment-là, c'est vous qui avez pris le relais, qui vous êtes occupé de vos frères.
Oui, quand on est l'aîné d'une famille et de surcroît une fille, c'est d'office que la charge des cadets vous revient. J'ai continué à aller à l'école jusqu'à ce que je sois envoyée en mariage. Et une fois également dans ma nouvelle situation d'épouse, j'ai continué à aller à l'école. Ce que je dis très souvent, c'est vous-même qui forgez votre avenir. Je le définis comme un droit. Et le droit, c'est vous-même qui devrez tout le temps rechercher à le conserver, à le réclamer. Parce que vos devoirs, vous trouverez toujours quelqu'un qui pourra vous rappeler que vous n'avez pas fait ci ou ça. Et je pense que c'est ça que j'ai fait. Voilà donc mon histoire à moi.
Et qu'est-ce qui a motivé votre combat contre les violences faites aux femmes ?
La prise de conscience, c'est que vous vous apercevez qu'en tant que fille, vous n'êtes pas traitée de la même manière que le garçon, votre frère. Et à partir de ce moment-là, vous ressentez l'infime conviction de faire quelque chose par vous-même pour vous réaliser. Et grâce à ça aussi, je me suis engagée pour qu'aucune autre fille ne puisse vivre une situation dont elle n'est pas prête à assumer. Lorsque les parents envoient leurs enfants très tôt dans des unions alors qu'elles n'ont pas encore fini leur éducation, ni religieuse, ni traditionnelle, c'est prendre beaucoup de risques que cet enfant-là soit violé la nuit de ses noces, beaucoup de risques que cet enfant-là ne puisse pas être éduqué simplement. Et ça, moi, je refuse de l'accepter.
Quel est le contexte particulier dans le Nord Cameroun ?
Il faut reconnaître que nous sommes dans une société patriarcale où les valeurs sociales sont encore très fortes et que la discrimination de la fille commence dès le berceau. Parce que dans les familles, lorsqu'il y a une naissance, celle du garçon est célébrée alors que celle de la fille est moins accueillie. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, l'éducation à double standard s'accentue. Elle est davantage préparée au mariage et le garçon a une éducation pour le rendre davantage responsable, celui qui doit assurer la pérennité familiale. Et la fille, elle est considérée comme un bien d'échange. La dot qu'on recevra de son mariage permettra à ce qu'on marie son frère. Et puis, il faut aussi dire qu'il y a une situation de crise sécuritaire, surtout celles qui vivent dans des milieux ruraux.
Notamment dû à la montée du groupe terroriste Boko Haram.
Oui, et puis la situation aussi des otages, des femmes qui ont été kidnappées par les insurgés et qui après reviennent au village. Elles sont passées par des expériences parfois très douloureuses où elles ont vu leurs proches assassinés, tués et qu'elles doivent vivre avec ce drame. Et au sein de la communauté, parfois, elles vivent dans une suspicion qui ne dit pas son nom. On peut les considérer comme des complices.
Alors, vous êtes la cofondatrice de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes dans l'extrême Nord Cameroun.
C'est ça.
Quelles sont les missions de votre association ?
Nous intervenons auprès des proches de la victime, de la femme, auprès des communautés, auprès de sa famille et dans son environnement complet.
C'est-à-dire que vous allez voir les chefs de village, les chefs religieux, par exemple ?
Voilà. Et là, nous faisons la sensibilisation. Parce que notre principal objectif, c'est que cette situation ne survienne jamais. Et un accent particulier est mis au niveau de la prévention.
Qu'est-ce qui fait que vous vous tenez bon et que vous aidez ces jeunes filles ?
Aucune femme, aucune fille ne devrait vivre la violence simplement parce qu'elle est femme. Et ça, c'est ce qui me donne cette fougue-là. Oui, l'Afrique qui gagne, ce serait celle où ses filles et ses fils jouiraient d'une égalité en droit. C'est ça, l'Afrique qui gagne. Celle où ses filles et ses fils sont appelés à travailler pour qu'elles soient debout.
Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur les sports urbains avec Simon Noguera, un dingue qui escalade Notre-Dame de Paris à 7h du matin. Il y aura aussi Lise Gomis qui nous racontera les parcours cabossés et généreux des skaters de Kampala à Accra. À demain.